ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Cette vérité a été cachée. La vérité sur cette affaire est cruelle. Mais il importe, comme je m'y suis engagé, qu'elle soit clairement et totalement établie.
Nous sommes le 22 septembre 1985, deux mois après l'explosion du Rainbow Warrior, soit 30 ans avant le premier volet de la saga OSS 117. Et pourtant, Laurent Fabius, alors Premier ministre de François Mitterrand, révèle que ce sont bien les services secrets français qui ont fait couler le navire de Greenpeace.
À la boulette, j'ai fait la boulette.
Bonjour Hervé Gattegno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur France Inter. Vous êtes journaliste, directeur de l'information de Radio Classique. Vous avez auparavant travaillé au Monde, dirigé les rédactions du Journal du Dimanche et de Paris Match. L'an dernier, vous avez reçu le prix spécial du jury du livre politique pour votre enquête sur l'affaire Markovic, qui avait ébranlé l'Élysée aussi à la fin des années 60. Mais si on vous invite cet après-midi, c'est pour une autre affaire, pas piquée des hannetons non plus, celle du Rainbow Warrior en 1985. Deux bombes sous le Rainbow Warrior, les derniers secrets de l'affaire qui aurait pu couler Mitterrand. C'est le titre de votre enquête qui vient de paraître chez Flammarion. On va revenir évidemment en détail sur ce qui s'est passé ce 10 juillet 85 à Auckland, un bateau de Greenpeace coulé par les agents français de la DGSE. Mais d'abord, avec cette attaque aurait vraiment pu coûter sa place à François Mitterrand.
C'était un contexte très difficile sur le plan politique 1985 pour François Mitterrand, parce que la gauche était en train petit à petit de baisser pavillon. On s'acheminait vers ce que les experts appelaient déjà la cohabitation, mais qui n'avait encore jamais existé. C'était uniquement une hypothèse théorique, mais on y allait tout droit. Et dans ce contexte d'affaiblissement de son pouvoir, François Mitterrand avait commis l'erreur de laisser faire, de donner son aval à cette opération des services secrets qui a coûté la vie à un homme à l'autre bout du monde. Mais cette opération des services secrets, elle s'est déroulée dans une démocratie, la Nouvelle-Zélande, un pays qui était l'allié de la France, qui était gouverné lui aussi par un gouvernement socialiste. Si François Mitterrand avait dû reconnaître d'emblée, ou avait été contraint de reconnaître d'emblée sa responsabilité et la responsabilité de la France dans cette opération, il est probable que son pouvoir n'aurait pas tenu, en tout cas le risque aurait été énorme, et peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de cohabitation six mois plus tard avec Jacques Chirac, et peut-être, en tout cas, la présidence de François Mitterrand n'aurait probablement pas duré 14 ans si cette affaire avait, sans mauvais jeu de mots, explosé tout de suite sur le plan politique.
On s'est longtemps demandé à quelle période et pour quel service secret exactement avait travaillé notre mystérieux rédacteur en chef Cyril Lacarrière. Enfin aujourd'hui, grâce au livre d'Hervé Gattegno, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Une opération mal montée, avec pour la mener une bande de bras cassés placée sous la direction d'un incompétent qui va déboucher sur une des plus grandes humiliations des services secrets français. On peut maintenant l'affirmer, Cyril était responsable des explosifs à la DGSE. Ce jour-là, la bombe devait simplement créer une brèche dans la coque pour ralentir le Rainbow Warrior. Mais voilà, comme il expliquera devant la cour martiale, à midi, on avait mangé des moules au Roquefort et j'avais un peu forcé sur le chablis, du coup, j'ai foiré le dosage. Zoom zoom back, spécial 1985, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes au cœur de deux heures de Gai Savoir en compagnie des meilleurs experts. Je parle évidemment des invités, pas de nous. Vous avez déjà eu un aperçu du professionnalisme de notre rédacteur en chef. Vous imaginez les échelons inférieurs de l'organigramme de l'émission. Et aujourd'hui, on se replonge dans une année marquante de l'histoire, une année où, dans la fosse du Palais des Congrès, Cyril reprenait en chœur avec son idole sa toute nouvelle chanson.
Oh là là.
Un chanteur de jazz qui en cachait un autre, plus subtil, dirait Télérama, simplement moins couillu, dirait Cyril.
Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz.
Un peu le cours de ma vie.
Vous imitez aussi Michel Jonas.
Je le chante.
Vous avez tous les talents. Michel Jonas, la boîte de jazz, mais 85, c'est surtout deux chefs-d'œuvre qui resteront au panthéon de la variété française. Je t'aime à l'italienne de Frédéric François.
Je t'aime à l'italienne.
J'ai envie de dire,
j'adore.
Évidemment, évidemment. Et puis même si ça fait plus l'objet de débats, certains citent aussi Mistral gagnant de Renaud.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps,
réclamer les loges.
Vous salissez les Mistral gagnants.
Pardon.
Non, non, pardon. Vous avez osé quand même.
Mais il aime bien faire une reprise de Mistral gagnant.
De toute façon, vous êtes plus team, vous êtes plus team Frédéric François, on l'aura compris. Certainement votre oreille absolue.
France Inter. Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Là, on est quand même à un niveau de private joke, c'est-à-dire que là, Quentin, vous avez fait une blague qu'on n'a pas encore faite à l'antenne, que vous êtes en train de répéter, de fomenter dans l'open space.
On va la faire.
Sur Mistral gagnant, vous avez composé une chanson pour la Marianoche, qui est le surnom de Manon Marini. Voilà, pour que, parce que là, même les plus férus de l'émission qui nous suivent depuis 3 ans n'ont aucune idée de quoi on parle. Mais voilà,
c'est un teaser.
Et je l'annonce, cette version Mistral gagnant de la Marianoche sera diffusée évidemment sur nos réseaux pendant l'été, puisque vous vous engagez à finir la production très rapidement. Alors, Hervé Gatineau, vous allez nous rafraîchir la mémoire sur cette affaire du Rainbow Warrior, ce bateau de Greenpeace qu'on a nous-mêmes coulé. Juste le temps de vous présenter mes précieux acolytes, à commencer par celle qui a visiblement ne se souvient pas qu'en 1985 au Mexique, il y a eu un terrible tremblement de terre. 30 000 blessés, 10 000 morts, épicentre, la capitale, Mexico City, là où dans quelques semaines, Manon projette toujours, contre l'avis de sa belle-mère, et faut-il le dire, contre l'avis de tous, de passer des vacances.
C'est pas possible.
Sachant qu'un séisme de cette amplitude connaît en moyenne des répliques tous les 40 ans, et qu'on est en 2025, le timing semble absolument parfait. Surtout, ne changez rien à vos plans, Manon. Donc aujourd'hui, pour votre avant-dernière chronique ever, vous nous racontez une première fois en 85.
L'un des concerts les plus emblématiques de l'histoire, le Live Aid, 16 heures de live avec les plus grands artistes de l'époque, Queen, David Bowie, Paul McCartney, Bob Dylan, Madonna. Je vous emmène dans les coulisses de cet immense concert caritatif en fin d'émission.
Lui, s'il avait été grand en 1985, enfin au sens adulte du terme, parce que grand, même dans un scénario fictif, on a du mal à l'imaginer, on sait où il aurait passé ses samedis soirs, au Bayocos, le Disco Club d'Alençon, dont il aurait été le DJ.
L'arc-en-ciel à l'époque.
Une main sur les platines, l'autre sur la cuisse de Patrick Hernandez, qui lui aurait d'ailleurs susurré « You're my heart, you're my soul », toute une époque qui n'existe hélas que dans mon cerveau malade.
Je l'aurais pas laissé faire. Il aurait pris un chassé, sa canne, elle lui aurait servi à quelque chose à ce moment-là. Allez-y.
Quentin, vous qui êtes saint d'esprit, vous nous racontez qu'en 1985, au travers des archives de l'INA.
Un faux mariage médiatisé, un Français champion du monde de Formule 1 et Coluche qui fonde les Restos du Cœur, retour par le son en 1985.
Et 1985, année faste, on l'a vu pour la DGSE, mais aussi pour l'aide humanitaire, puisque Camille Diao viendra nous révéler les coulisses de l'incroyable tube interplanétaire We Are The World, We Are The Children, qu'on écoute toujours 40 ans après avec autant d'émotion, sauf Morandini qui l'écoute lui avec excitation. En fin d'émission, Charles Nouveau nous rejoindra, mais pas sûr que le Rainbow Warrior l'inspire autant que le France-Allemagne de 82, on lui laissera néanmoins une chance. Pour l'heure, profitons des lumières de notre invité Hervé Gatineau. Alors Hervé, on évoque cet attentat contre le Rainbow Warrior, le bateau de Greenpeace, juillet 85, attaque commanditée, selon la thèse que vous défendez, par François Mitterrand lui-même. Déjà, est-ce que c'est une thèse ou est-ce que c'est vraiment complètement avéré ? Il n'y a plus de discussion autour de ça ?
Alors, il n'y a pas de discussion sur l'implication de François Mitterrand dans le processus de décision, puisqu'il y a des documents qui le prouvent, notamment un rapport de l'amiral Lacoste, qui était le chef de la DGSE, donc des services secrets français à l'époque, et que je publie pour la première fois en intégralité dans mon livre. Il y a en revanche un débat qui demeure sur le mot que vous avez employé, c'est-à-dire commanditaire. Vous savez, en matière de services secret, l'autorité politique qui a l'utilisation entre les mains des services secrets, les services secrets sont faits pour ça, pour commettre des actions illégales au nom d'une démocratie qui ne peut pas l'admettre par définition. Mais les services secrets, lorsqu'ils agissent, le processus de décision qui conduit à leur engagement n'est jamais un processus très formel, parce qu'au fond, l'idée, c'est qu'on ne laisse pas de preuves derrière soi. Et ce que nous savons dans cet épisode particulier, c'est que le ministre de la Défense de l'époque, Charles Hernu, a donné l'ordre à la DGSE de s'attaquer au Rainbow Warrior et, selon toute vraisemblance, avalisé formellement la décision de couler ce bateau dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande.
C'est pas une opération qui a mal tourné.
L'objectif était de poser des bombes sous ce bateau pour le couler. Mais la condition, c'était de prendre le maximum de précautions pour éviter de porter atteinte à des vies humaines. Et malheureusement, un homme est mort, un photographe proche de Greenpeace à bord du bateau.
Je vous arrête là, Hervé Gatineau. Que se passe-t-il après ? À quel moment Cyril Lacarrière intervient ? Vous le saurez en écoutant la suite de notre émission juste après Louis Chédid, Anne, ma sœur Anne, sur France Inter.
Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que je vois venir. Anne, ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Anne, ma sœur Anne, c'est con.
partie. La voilà revenue, l'historique hystérie. Anne Mazara, si je te disais ce que j'entends, Anne Mazara, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements, Anne Mazara.
En 1985, j'avais 3 ans et j'étais bien sûr trop jeune pour percevoir la puissance évocatrice de l'œuvre de George Michael. Mais c'est certainement de là que m'est venue ma passion pour le saxophone. Merci, George.
Oui, que vous avez pratiqué.
Ben oui, j'ai pratiqué, oui, c'est vrai, c'est vrai. Un jour, je vous jouerai un peu de saxophone à la fin d'une émission.
Si vous avez des vidéos, envoyez-les-nous.
Non, merci, non, merci. Quant à nous, on zoome aujourd'hui sur un autre événement fort de 85, l'affaire du Rainbow Warrior. Hervé Gattegno, enquêté, revient sur cette affaire qui aurait pu couler, on l'a dit, François Mitterrand. Deux bombes sous le Rainbow Warrior, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître chez Flammarion. Alors Hervé, pourquoi François Mitterrand voulait absolument éliminer ce Rainbow Warrior? Enfin, avec le recul, on se dit, mais c'était pas grand-chose. Pourquoi vouloir prendre tant de risques pour ça?
Alors, si on prend l'affaire par le haut, donc François Mitterrand lui-même considérait, dans le contexte d'affaiblissement politique dont je vous ai parlé tout à l'heure, il considérait que les pouvoirs régaliens que lui donnait la Constitution étaient essentiels à son maintien face au pays et dans la perspective d'une cohabitation face à la droite, notamment l'arme nucléaire, donc tout ce qui allait avec l'arme nucléaire. Il avait eu cette phrase à la télévision qui restait dans les mémoires: la dissuasion nucléaire, c'est moi. Et puis, si on prend l'affaire par le bas, les officiers, l'armée française, la marine française, qui a la main sur la flotte de l'océan Pacifique, eux, étaient ulcérés par les actions récurrentes de Greenpeace et des écologistes contre les essais nucléaires. Ils en avaient ras-le-bol, pour parler trivialement, et un fait nouveau s'était produit, c'est qu'au lieu des petits voiliers que Greenpeace envoyait d'habitude dans la zone et que la marine française chassait parfois à coups de poing, mais chassait relativement facilement, Greenpeace avait acheté ce gros bateau, ce gros chalutier
qui s'appelait le Rainbow Warrior.
Ben, un très gros bateau, c'est un ancien chalutier. Donc, qui a été racheté par Greenpeace au gouvernement britannique et transformé par Greenpeace en navire écologiste. Donc, on a ajouté des voiles et puis on a...
C'est trois mâts, hein.
Oui, oui, bien sûr. Et puis, on a ajouté des équipements très sophistiqués, notamment des équipements vidéo. Alors, aujourd'hui, ça prête à rire de dire ça, mais à l'époque, c'est très rare d'avoir installé des caméras sur un bateau. Les caméras sont destinées à filmer la marine française en train d'essayer de faire un coup de force contre des militants écologistes pour humilier la France et à nouveau pour parasiter le travail de la marine française.
Parmi les personnes importantes dans cette affaire, il y a Pierre Lacoste, qui est le chef de la DGSE en 85. Lui, il était contre cette opération, il aurait préféré qu'on sabote le carburant du Rainbow Warrior pour l'empêcher de prendre le large. Pourquoi avoir décidé d'utiliser la manière forte, donc l'usage de ces deux bombes?
Alors, pour corriger un tout petit peu, Pierre Lacoste, par définition, il n'était pas contre cette opération, sans quoi il aurait dit au gouvernement, il aurait dit au ministre...
Contre cette façon-là.
Il aurait dit, il ne faut pas faire ça. Néanmoins, dans les scénarios proposés par la DGSE, il y avait en effet des scénarios de ce type, mettre du sucre ou même des bactéries d'un genre tout nouveau que la DGSE avait fabriqué en laboratoire... et qui permettait de corroder le moteur pour immobiliser le bateau. Néanmoins, le ministre Charles Hernu voulait encore une fois une solution radicale et définitive pour empêcher ce bateau de nuire en quelque sorte aux essais nucléaires français.
Chaque semaine, il nous fait revivre une année entière à travers les archives de l'INA. Il pourrait parfaitement le faire tout seul, à la bouche, au talent, comme il l'avait fait sur 67, en reprenant a cappella le tube de Nougaro.
En Toulouse, mon pays.
La direction, étrangement, lui dira non, plutôt les archives, Quentin.
C'est
plutôt,
pas ma meilleure.
Plutôt
c'est
les temps. On peut même dire que c'est votre pire. Aujourd'hui, direction donc 1985, Quentin.
Le 10 janvier 1985, la France se réveille au son d'un nouveau générique.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Je veux dire par là, j'espère que vous avez bien dormi. Vous êtes les bienvenus. À partir de maintenant, on s'occupe de tout. Vous savez que quand on commence une émission de radio ou de télévision, on a l'habitude de se choisir un parrain ou une marraine. Eh bien, nous n'allons pas à faillir à la tradition. Le plus simple est de vous le présenter. Figurez-vous que nous avons recueilli une interview exclusive très tôt ce matin. La voici.
Voilà. William Lémergie lance, non sans humour, hein, on savait rire à l'époque, Télématin sur Antenne 2.
Surtout William.
C'est la première matinale du petit écran en France et elle va accompagner les réveils de toute une génération. Il en sera le présentateur jusqu'en juin 2017. Deux mois plus tard, l'Amérique veut sauver le monde en chanson avec We Are The World. En France aussi, on chante pour ce qu'on appelle alors le tiers-monde.
Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre.
Les chanteurs sans frontières, Goldman, Renaud, Michel Sardou, Cabrel, Daniel Balavoine, France Gall ou encore Véronique Sanson, le disque se vend à plus d'1 million d'exemplaires et permet de récolter, à l'époque, 23 millions de francs, ce qui équivaut à peu près à 5 millions d'euros aujourd'hui. Mais pendant qu'on chante, un autre fléau prend de l'ampleur.
Depuis que l'on sait que l'acteur Rock Hudson est atteint du sida, une véritable panique s'est emparée des États-Unis. L'hebdomadaire Newsweek consacre sa une au phénomène et n'hésite pas à écrire qu'il s'agit du problème le plus grave concernant la santé des Américains.
À Atlanta, première conférence mondiale sur le sida, en avril 85, on comprend que le virus VIH ne tue pas seulement des milliers de gens, mais sans doute des millions. L'inquiétude devient mondiale. Le 29 mai, au stade du Heysel à Bruxelles, juste avant la finale de la Coupe d'Europe, des clubs champions, c'est l'ancêtre de la Ligue des champions, c'est le drame.
Ils avaient voulu voir un match de football. Ils sont morts, étouffés, frappés, piétinés, écrasés, certains poignardés. Ils avaient franchi la Manche, les hooligans, pour se battre. Et pendant ce temps-là, les autres, l'immense majorité des 55 000 spectateurs continuent leur fête, chantent la gloire de leur club. 21h40, ils vont jouer. Ce ne sera pas un grand match. Il y aura un vainqueur, un vaincu, et puis le calme progressivement retrouvé. Les hooligans sont rentrés chez eux, et qui donc répondra des 41 morts?
Bilan du hooliganisme en ce 29 mai, donc au stade du Heysel, 39 morts, un but de Platini sur pénalty. Il dira plus tard qu'il regrette de l'avoir célébré. Liverpool et tous les autres clubs anglais seront exclus de toutes les Coupes d'Europe durant 5 ans. En septembre, deux comiques s'unissent pour de faux.
Ah, ma jarretière! Ah, je perds ma jarretière! Regardez, elle est tombée au-dessus du genou. Oh la merde! Je préfère avoir une épouse comme Coluche qui a de la personnalité.
Notre mariage est bidon. Nous n'avons pas peur de le dire, nous. Et nous n'espérons pas avoir beaucoup d'enfants, mais beaucoup d'articles et de photos dans vos journaux.
On aurait pu croire à un mariage pour soutenir le mariage gay, mais en fait, Thierry Leluron et Coluche parodient le mariage d'Yves Mourouzi avec Véronique d'Alençon. De 22 ans, sa cadette, ça fait grincer des dents à l'époque, mais surtout, ça donne une archive rigolote. Le 6 octobre, la France vibre.
Formule 1, Alain Prost, champion du monde des pilotes. Premier titre mondial pour un Français, une journée historique.
À quoi on pense? Parce que bon, premier Français champion du monde de pilote de F1.
Rien, je suis très très heureux pour tous les Français et tout qui doivent tenter de regarder leur télévision et tout, mais pour l'instant on ne peut pas sentir. Si je disais quelque chose, ce serait malhonnête, franchement, on pense à rien.
On pense à rien, Alain Prost sera quand même 4 fois champion du monde. Le 21 décembre, un geste immense, né dans une simple tente.
Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France.
Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien.
Coluche ouvre les Restos du Cœur dans le 19e. 40 ans plus tard, ces restos existent toujours avec toujours plus de monde pour venir chercher des repas. Pendant ce temps, à l'Est, l'histoire du monde bascule.
François Mitterrand va se rendre à Moscou mercredi prochain pour les obsèques de Constantin Tchernenko. Ronald Reagan n'y sera pas, en revanche, mais il y aura beaucoup de chefs d'État et de gouvernement. Pour ce tournant de l'histoire soviétique et de l'histoire tout court, Constantin Tchernenko est mort et il est remplacé par un homme 20 ans plus jeune que lui, Mikhail Gorbatchev.
Gorbatchev, c'est l'homme qui a voulu sauver le communisme en l'ouvrant au monde et qui a ouvert la porte à sa propre chute, réformateur sincère pour les uns, fossoyeur de l'Empire soviétique pour les autres. Il reste une figure clé du XXe siècle et il a joué un rôle central dans la disparition du rideau de fer. Le monde gagne Gorbatchev, celui du cinéma en revanche perd. Simone Signoret et Michel Audiard en 85, dialoguiste de génie.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul.
aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Hervé Gattegno, vous vous souvenez peut-être de ce tournant Gorbatchev ? Qu'est-ce qu'il vous évoque avec le recul ?
Il m'évoque plusieurs loupés, un défaut d'appréciation de François Mitterrand à l'époque, qui probablement pour des questions générationnelles ne comprend pas complètement ce qui est en train de se passer. La diplomatie française est un peu en retard, c'est pas la seule dans les grandes démocraties, mais c'est vrai qu'on a du mal, et nous-mêmes, moi je ne suis pas encore journaliste à l'époque, mais je pense que toute notre partie de l'Europe est un peu fascinée devant ce qui se passe, et on n'arrive pas à avoir de l'espoir. Moi, c'est ça le souvenir que je garde. C'est-à-dire qu'on se dit ils vont se moderniser, donc ils vont se renforcer. Et au fond, c'est plus de l'inquiétude que de l'espérance.
On ne voit pas du tout l'effondrement à venir.
Non, pas du tout. D'ailleurs, l'effondrement va mettre beaucoup de temps à se produire. Il met 4 ans. Mais à l'époque, je pense qu'on est frappé par le fait que, au fond, ce qui est en train de se passer apparaît davantage comme un renforcement du pouvoir soviétique que comme une fragilisation. Et en Europe, bien malin, qui peut prétendre avoir dit à l'époque, avec l'arrivée de Gorbatchev, ça y est, le système est en train de se fissurer. Ce n'est pas du tout ce qui se passe.
On est de retour en juillet 85 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. On le disait tout à l'heure, Hervé Gattegno, l'enquête sur le Rainbow Warrior va aller très vite. Un couple de ressortissants suisses est rapidement arrêté dans une agence de location de voitures. Leur nom qui figure sur le passeport, Alain et Sophie Turange. Comment la police néo-zélandaise est remontée jusqu'à eux ?
Alors, un manque de chance, et pour les agents secrets, la chance, normalement, n'est pas un ingrédient. Tout doit être prêt pour éviter l'intervention du hasard et donc de la chance. En l'occurrence, la mission a été faite dans des conditions de précipitation déraisonnables. Beaucoup de gens du service l'ont dit à l'époque. Dominique Prieur, donc la fausse Madame Turange avec qui j'ai parlé pour mon livre, dit clairement qu'elle faisait partie de ces agents qui ont dit que les conditions de préparation de la mission étaient insuffisantes. Et donc, un des ingrédients que les agents français avaient mal apprécié, c'est l'incroyable civisme des Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais sont des gens qui surveillent tout, qui détectent chaque chose un tout petit peu anormale dans la vie quotidienne et qui sont prêts à dénoncer au commissariat du coin quelqu'un qui s'est garé en double file. Et donc, ce qui se passe cette nuit-là à Auckland, au moment où l'attentat va avoir lieu, c'est que avant que la bombe n'explose, lorsque les plongeurs sortent de l'eau, ils sont récupérés donc par un agent qui conduit un Zodiac. Donc le Zodiac traverse la baie d'Auckland et lorsqu'il arrive sur la berge, il est réceptionné par les faux époux Turange, donc Alain Maffard et Dominique Prieur, deux officiers de la DGSE, et malheureusement pour eux, ils sont aperçus à la jumelle par le vigile d'une marina voisine. Ce vigile surveille-t-il ? C'est parce que les jours qui précèdent, et ça, le service secret ne pouvait pas le savoir, il y a eu une série de cambriolages dans des bateaux amarrés dans le port, et donc ce vigile surveille, et lorsqu'il les voit tirer un Zodiac hors de l'eau et monter dans un van, il pense qu'il a probablement affaire aux cambrioleurs de ces derniers jours. Il appelle la police. La police ne vient pas tout de suite. On est aux alentours de minuit. Et donc, il prend sa propre voiture. Il se rend sur les lieux de ceux qu'il a aperçus à la jumelle. Et là, au moment où il arrive, le van des agents secrets français s'en va et il note l'immatriculation. C'est un véhicule de location pour la police. Le lendemain, lorsqu'on constate l'explosion du bateau, en une heure, on sait qui sont les locataires de ce véhicule et on les attend tout simplement à l'agence de location.
J'ai été dur avec Cyril, il a vraiment joué de malchance sur cette opération. En 1985, on n'avait pas encore des artistes aussi talentueux qu'aujourd'hui, comme Charlie XCX, inventrice de l'auto-karaoké. Non, on devait se contenter de petits artistes comme Queen, David Bowie, Paul McCartney, Bob Dylan ou Madonna, qui étaient tous réunis pour un même concert historique. Manon vous raconte le Live Aid de 85. Juste après Parcells, You Got Me Feeling sur Inter. You got me feeling like I'm uninvited. You got me feeling like I'm just outside. You got me feeling like I won't even like it. You got me feeling. You got me feeling like I'm uninvited. You got me feeling like I'm wasted time. You got me feeling like I'm unexcited.
Mathieu Noël sur France Inter.
1985, 40 ans avant l'enlèvement de Manon Mariani par la junte mexicaine d'Iguala l'été prochain, dont les sbires n'auront aucun mal à la repérer dans la foule des touristes puisque ce sera la seule qui portera un sombrero.
Il mais sera très beau, j'ai hâte de l'acheter.
Donc,
très
grand, très... Restons donc en 85, Manon, pour une toute première fois inoubliable.
Au début de l'été 1985, le monde entier attend un concert événement qui va se dérouler en simultané au stade Wembley de Londres et au JFK Stadium de Philadelphie. Un concert caritatif pour venir en aide à la famine en Éthiopie. Un concert qui va totalement marquer l'histoire de la musique, le Live Aid. On est le 13 juillet, à midi, Lady Di et le prince Charles entrent sur la scène de Wembley devant 72 000 personnes qui attendent un show monumental diffusé en direct sur les chaînes du monde entier. Du jamais vu, le groupe Status Quo ouvre le bal. S'enchaînent Ultravox, Phil Collins et Sting, Brian Ferry et U2. Puis, à 18h40, c'est Queen qui monte sur scène. De concert inoubliable, Freddie Mercury au sommet de son art, j'y reviendrai plus tard, car le line-up de folie continue avec David Bowie, The Who ou encore Paul McCartney. Le concert se finit en Angleterre après 10 heures de live. Et c'est à Philadelphie de prendre la relève. Run DMC, les Beach Boys, Bryan Adams se succèdent au micro devant plus de 90 000 spectateurs. Il y a même une toute jeune chanteuse en passe de devenir une pop star mondiale. Madonna, évidemment. Et puis ce sont les superstars de l'époque qui mettent le feu au stade. Neil Young, Led Zeppelin, Mick Jagger. Arrive enfin le dernier artiste présenté par Jack Nicholson. It can only be one man, the transcendent Bob Dylan. Bob Dylan qui offre une performance magique accompagnée de Keith Richards et de Ron Wood. Le concert s'achève ensuite sur le tube caritatif We Are The World. Camille Diao y reviendra en détail tout à l'heure. Un single écrit par Lionel Richie et Michael Jackson pour récolter des fonds pour l'Éthiopie. Live Aid a été un succès phénoménal, 16 heures de concert suivies par plus de 2 milliards de personnes dans le monde entier en direct devant leur télévision, 127 millions de dollars ont été récoltés. Et tout ça, on le doit à une seule personne, Bob Geldof. Ce chanteur irlandais s'est fait connaître dans les années 70 avec son groupe Boomtown Rats. En 1984, ils sont un peu sur le déclin et Bob Geldof va avoir un déclic. Un soir, il voit un reportage à la BBC sur la famine en Éthiopie qui se déroule dans l'indifférence générale et surtout sans aide internationale. Il a alors l'idée de composer un morceau caritatif dont les bénéfices iront à l'Éthiopie. 45 artistes britanniques et irlandais rejoignent le projet et pas n'importe qui, Bono, George Michael, Sting, Phil Collins, Paul McCartney entre autres. Ils forment le collectif Band Aid et la chanson Do They Know It's Christmas sort le 8 novembre 1984. Succès instantané, le single devient la meilleure vente de l'année au Royaume-Uni. Mais Bob Geldof ne veut pas s'arrêter là. Il a donc l'idée d'organiser cet énorme concert avec tous les artistes rock du moment, retransmis en direct. Pour l'époque, c'est inédit, il n'y a pas internet, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas de téléphone portable. C'est donc une organisation monumentale. Il embauche le promoteur Harvey Goldschmidt pour tout coordonner et convainc les chaînes du monde entier de le suivre, notamment la BBC et MTV. Chez nous, le concert sera retransmis sur Antenne 2, mais seulement quelques moments. Live Aid est organisé en 10 semaines seulement. Pour la petite histoire, Bob Geldof n'était pas très enthousiaste à l'idée d'inviter Queen à jouer sur le principal créneau de l'après-midi. Il pensait que le groupe était passé de mode. C'est Harvey Goldschmidt, son promoteur, qui le convainc en disant que la présence scénique de Freddie Mercury allait électriser le public et donner de l'énergie au concert. Heureusement qu'il l'a fait, car la performance de Queen est devenue le moment culte du Live Aid pour beaucoup. Il a marqué l'histoire de la musique. Skill the man, but God against his En 2018, le show de Queen a connu un retour de hype avec le biopic Bohemian Rhapsody. Le film se clôture sur ce fameux Live Aid. L'acteur Rami Malek raconte avoir regardé le concert en boucle pour s'imprégner de la gestuelle de Mercury. Aujourd'hui, la vidéo compte plus de 100 millions de vues sur YouTube. 10 ans après, Bob Geldof a remis le couvercle en organisant le Live Aid avec l'aide de Bono, une série de concerts organisée le 2 juillet 2005 dans 10 grandes villes du monde. Cette fois-ci, le but est de faire pression sur les dirigeants pour lutter contre l'extrême pauvreté en Afrique et demander l'annulation de la dette de certains pays africains. Le line-up est aussi dingue. U2, Coldplay, Madonna, Alicia Keys, Robbie Williams. Chez nous, c'était au château de Versailles. Il y avait Diams, Muse, Placebo, Kyo. Et oui.
Ah oui.
Un moment aussi historique pour les Pink Floyd qui se reforment pour la première fois depuis 1979. Ça sera leur dernier concert.
C'est beau, c'est pas du Frédéric François, mais c'est beau. Et on en revient à notre sujet fil rouge cet après-midi, 1985 toujours évidemment. Hervé Gattegno est toujours avec nous pour son enquête « Deux bombes sous le Rainbow Warrior, les derniers secrets de l'affaire qui aurait pu couler Mitterrand ». C'est chez Flammarion. Hervé, c'est finalement pas Mitterrand qui a coulé avec cette affaire, mais l'amiral Lacoste de la DGSE et le ministre de la Défense de l'époque, Charles Hernu. Ils ont clairement servi de fusible ou c'était eux, in fine, quand même, par l'organisation technique de l'opération elle-même, qui sont responsables ?
Ils étaient responsables politiquement, ils étaient responsables juridiquement, ils étaient responsables moralement, tous les deux, même si, je le raconte dans mon livre, après le fiasco, la mort du photographe, l'arrestation des agents, l'amiral Lacoste se conduit comme un commandant de vaisseau qui est prêt à couler avec son navire, mais qui veut défendre son service, bec et ongles, contre les politiques qui sont quand même tentés, il faut bien le dire, de s'essuyer un peu les pieds sur le service. Charles Hernu, donc, lui, a une responsabilité de bout en bout, parce que, de toute évidence, c'est lui qui électrise cette affaire et qui pousse jusqu'à des solutions extrêmement radicales et donc jusqu'à cette bombe, enfin ces deux bombes qui vont couler ce bateau et malheureusement faire une victime. Et quant à François Mitterrand et son premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, ils entrent tous les deux, du fait de François Mitterrand, dans une sorte de sarabande de mensonges qui va petit à petit placer le gouvernement français dans une situation inextricable et dont il va falloir sortir tant bien que mal. C'est pourquoi Charles Hernu et l'amiral Lacoste, à la fin, sont révoqués, l'un poussé à la démission, l'autre viré, au fond, pour sauver François Mitterrand.
Et ce qui est fou, vous le racontez dans le livre, c'est que Matignon n'était pas au courant de cette affaire, le directeur de cabinet de Laurent Fabius l'apprend dans la presse. Comment ça c'est possible à l'époque ? C'est le système Mitterrand du secret ?
Alors, ce que le directeur de cabinet du Premier ministre apprend dans la presse, c'est le plasticage, l'explosion du Rainbow Warrior en Nouvelle-Zélande. Et il comprend tout de suite que, de toute évidence, la France est impliquée dans cette opération. Ce qui lui est caché, ce qui est caché au Premier ministre, à Laurent Fabius à l'époque, c'est l'engagement effectif de la DGSE, les conditions de réalisation de cette opération, et surtout, le principal secret de cette affaire, c'est que François Mitterrand a avalisé en personne cette opération. Ensuite, moi je rentre, sans mauvais jeu de mots, je plonge dans le monde du secret et donc dans les relations très particulières entre le service secret d'une démocratie et le pouvoir politique. Et en fait, ce qu'on comprend lorsqu'on fréquente ce monde-là, c'est que le Premier ministre, le gouvernement, est presque toujours tenu à l'écart. C'est la chaîne de décision, elle est complètement atypique, elle passe directement des militaires et leur ministre, le ministre de la Défense, au pouvoir le plus haut dans une démocratie, en tout cas dans la nôtre, c'est-à-dire le président de la République. Et donc, tout cela se passe à partir de l'Élysée, entre l'Élysée, le ministère de la Défense et la DGSE, et est complètement squeezé de toutes ces opérations, le Premier ministre et Matignon.
Dernière question, est-ce que la France a été condamnée pour ça ?
Oui, la France a été condamnée quelques années plus tard, dans des conditions elle aussi particulièrement acrobatique. Au fond, il a fallu régler le contentieux entre la France et la Nouvelle-Zélande. Il a donc fallu trouver une autorité qui prononce une sorte de condamnation. La France ne pouvait pas accepter de se faire condamner pour une opération militaire de ce type par un gouvernement ami démocratique, mais qui lui-même s'opposait aux essais nucléaires français dans cette partie du monde. Et la Nouvelle-Zélande ne pouvait pas accepter de se laisser humilier par un pays qui avait commis un attentat sur son sol. Donc on a trouvé une solution solution. On a demandé au secrétaire général des Nations Unies, c'était à l'époque M. Pérez de Cuellar, de rendre une sorte d'arbitrage entre les deux pays, arbitrage qui a prononcé donc une forme de condamnation de la France, condamnation à des excuses publiques, condamnation à une indemnisation financière. Et en réalité, une des choses que je raconte dans mon livre et que j'ai découvert dans les archives de l'État français, dans les archives de Matignon en l'occurrence, c'est que cette sentence elle-même, cet arbitrage, est lui-même une parodie d'arbitrage. C'est un stratagème qui a été inventé. En réalité, les deux pays ont négocié pendant des mois en secret, se sont mis d'accord et ont fait avaliser cette fausse condamnation par le secrétaire général de l'ONU en personne.
Le reste de cette folle histoire est dans Deux bombes sur le Rainbow Warrior, les derniers secrets de l'affaire qui aurait pu couler Mitterrand, d'Hervé Gattegno chez Flammarion. À suivre dans Zoom Zoom Zen. On va décidément de surprise en surprise en cette fin de saison, puisqu'une fois n'est pas coutume, tout à l'heure Charles Nouveau nous fera l'honneur d'une analyse comico-narcissique, une première. Bonjour cher ami.
Ami, vraiment, les mots ont un sens, Mathieu Noël, ne les utilisons pas n'importe comment. Est-ce que des gens qui font une bouffe zoom zoom zen sans t'inviter sont réellement des amis? C'est une question rhétorique, Marioni, ne répondez pas très très ce que vous êtes. Est-ce que la régie a un son pour illustrer l'émotion que je ressens présentement?
Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
Tout à l'heure, on restera sur les chefs d'État qui ont des choses à se reprocher, puisqu'on parlera du Rainbow Warrior.
En attendant, ce qui sera certainement l'apogée de cette émission, mon cher Charles, je me tourne vers vous, Camille Diaou. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors Camille, chaque semaine, dans Rétropop, vous nous racontez une chanson qui incarne son époque. Et ça donne quoi alors en 85?
Eh bien, ça donne un hymne planétaire. We are the world, nous sommes le monde, et il y en a du monde sur ce refrain. 47 grandes voix américaines qui chantent ensemble pour l'Éthiopie où la famine fait rage depuis 1983. 300 000 morts, 7 millions de personnes en danger et une émotion mondiale. Alors le tout premier artiste à se mobiliser, Manon en parlait tout à l'heure, c'est un rocker irlandais, Bob Geldof. Ce titre, il sort en décembre 84, il rassemble 40 popstars britanniques pour l'Éthiopie. Elles vont vite faire des émules. Ça, c'est Tam Tam pour l'Éthiopie, janvier 85, Manu Dibango, Salif Keita, Youssou N'Dour et d'autres stars de la musique africaine. Tout ça arrive aux oreilles d'une légende, l'américain Harry Belafonte. En 1963 déjà, il marchait aux côtés de Martin Luther King et déclarait
« We believe that artists have a valuable function in any society.
Les artistes ont un rôle crucial dans la société, car ce sont eux qui révèlent la société à elle-même. 22 ans plus tard, il n'a pas changé d'avis. Pour l'Éthiopie, il contacte donc deux superstars, Lionel Richie et Michael Jackson, rien que ça, qui écrivent et composent ensemble We Are The World. À la production, une autre superstar, un certain Quincy Jones, et c'est un véritable all-star game qui se joint à eux. Il y a Stevie Wonder,
there are people dying.
Diana Ross.
We're saving our own lives.
Bob Dylan.
It's true, we make a better day. Just you and me.
Sans oublier Springsteen, Sidney Lauper, Tina Turner, Ray Charles, je peux pas toutes les citer, hein, mais imaginez la logistique pour rassembler tout ce beau monde en studio. L'idée de génie, c'est d'organiser ça le 28 janvier 85. C'est la date des American Music Awards. Il suffit de tous les cueillir à la sortie de la cérémonie et de les embarquer pour une nuit blanche en studio. Cette nuit-là, elle a été filmée et elle fait l'objet d'un documentaire, The Greatest Night of Pop, à voir sur Netflix. Je vous le recommande absolument. C'est fascinant de voir toutes ces mégastars réunis avec une consigne affichée à l'entrée du studio.
Check your ego at the door.
Laissez votre ego à la porte.
Alors, est-ce que la consigne a été respectée?
Plus ou moins. Ah. Alors, il y a ceux qui ont quand même très hâte d'aller se coucher, ceux qui font perdre du temps à tout le monde en voulant imposer leurs idées. Un petit indice, ça commence par Stevie, ça finit par Wonder.
D'accord, très bien.
Il y a aussi Bob Dylan, pas très à l'aise, mais qui va finir par se lâcher sous les encouragements du même Stevie Wonder. C'est une scène d'anthologie. À 6h du mat, c'est enfin dans la boîte. Et We Are The World sera le plus grand succès commercial des années 80. 20 millions d'exemplaires vendus, 80 millions de dollars récoltés pour l'Éthiopie.
Mission accomplie donc.
Alors oui, le morceau a contribué à sauver des vies, ça c'est indéniable, mais non sans soulever quelques questions. Certains ont vu dans la posture du groupe, dans les paroles, dans le nom du groupe aussi, USA for Africa, une forme de paternalisme occidental, un regard misérabiliste porté non seulement sur l'Éthiopie, mais sur tout le continent. Bon, ça n'a pas empêché le morceau d'ouvrir la grande ère des chansons caritatives, live des années 80. Mmh. Alors Quentin citait tout à l'heure SOS Éthiopie de Renaud et ses chanteurs sans frontières. On chante aussi contre l'apartheid, on chante contre la pauvreté. C'est fin 85 que Coluche imagine les enfoirés. Et pour la chanson, il fait appel à notre Michael Jackson à nous, Jean-Jacques Goldman. Ah. Ce succès-là, en fait, les Restos du Cœur, ils le doivent en partie à We Are The World.
On n'entend plus beaucoup aujourd'hui des chansons caritatives.
Et bien pourtant, il en existe toujours. En mars dernier, le rappeur Damso invité Juliette Armanet, Pomme ou encore Eddy de Préto a interprété avec lui le nouvel hymne du Cid Action. Le temps s'est écoulé, mais l'espoir n'a pas faibli. Bon, clairement, ça n'a pas eu le succès de We Are The World. Et les enfoirés non plus, hein, ils n'atteignent plus le haut des charts. En fait, cette recette du supergroupe caritatif, elle est un peu éculée aujourd'hui, pour ne pas dire un peu ringarde. Mais ça, ça ne veut pas dire que les Français sont devenus radins. Au contraire, ils n'ont jamais autant donné aux associations. Sauf que la nouvelle génération a inventé d'autres façons de lever des fonds. Je pense par exemple aux Z-Event tous les ans sur la plateforme Twitch. L'année dernière, ça a permis de récolter 10 millions d'euros pour le Secours Populaire. Donc ils sont plutôt là, les héritiers 2025 de We Are The World.
Merci Camille Diao, mais nous, comme on n'est pas de la Gen Z, on s'écoute. USA for Africa. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Someone, somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are.
Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
En 1985, les parents de Charles Nouveau ne s'étaient pas encore rencontrés. En 2025, ils ne se parlent plus. Oh. Heureusement, lui nous adresse encore la parole. C'est à vous, Charles.
1985, on parle du Rainbow Warrior. Non, ce n'est pas le pseudo de GC sur Call of Duty. C'est évidemment un bateau de Greenpeace que la France a tristement rendu célèbre, mais pas suffisamment pour que je n'ai pas à faire de recherche sur le sujet. Papa, qu'est-ce que je peux raconter sur le Rainbow Warrior? L'émission est sur 1985.
Très bonne année pour les Bordeaux.
Ok, très bien, merci. J'essaierai de le placer. Bateau de Greenpeace qui faisait plutôt bien son boulot, le Rainbow Wawa, dans la mesure où son boulot à ce moment-là, c'était d'incommoder la France en dénonçant, voire en empêchant ses essais nucléaires dans le Pacifique. On la laisse vraiment jamais tranquille, la France, putain. Ça va, c'est grand le Pacifique, non? Merde! Bientôt, on pourra même plus pisser dans la mer! Se disaient certainement les types qui ont sciemment choisi de faire péter des bombes nucléaires à proximité de la Polynésie française. Peut-être le recoin de France où les gens sont les plus beaux, alors qu'on a des régions où ça n'aurait que moyennement affecté la gueule des habitants. Chacun peut penser à celle qui veut. Après, c'est vrai que si t'es obligé de faire un essai nucléaire et que tu regardes une map monde, t'as un peu envie de le faire au milieu de là où c'est bleu. Hein, le problème, c'est qu'au milieu de là où c'est bleu, il n'y a pas pété. Donc, fausse bonne idée, ça reste ignoble. Et est-ce que t'es obligé de les faire, ces essais? Entre 1960 et 1996, la France a effectué 210 essais nucléaires. On est d'accord qu'au bout des 200 premiers, ils savaient que ça fonctionnait, le truc. Putain, les 10 dernières, c'était pour l'amour du lol. Sur les 210 essais nucléaires, 193 ont lieu en Polynésie. Et après ça, ces gens-là osent dire qu'on pense jamais à eux. 193, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait une moyenne de 1 tous les 2 mois. Il y a des petits là-bas qui avaient plus souvent des essais nucléaires que des contrôles de maths. Et quand Greenpeace veut gueuler contre ça, on les traite plus ou moins de terroristes. Hein, tout parallèle avec des embarcations contemporaines serait évidemment fortuit. La France décide donc de faire couler le bateau par des espions. Alors, si en regardant le bureau des légendes, vous vous êtes dit « Oh là là, ils sont forts quand même, le DGSE », dites-vous que comme les cheveux de Squeezie ou d'Emeric Lomprey, ils reviennent de loin. Si on liste les festivités liées au Rainbow Warrior, les espions français débarquent en Nouvelle-Zélande et font exploser un bateau avec, c'était pas prévu, quelqu'un qui était encore dedans. Oups. Au moment où ils repartent, un vigile les trouve suspects et note le numéro de plaque d'immatriculation de leur camionnette. Oups 2. Return of the Oups. En même temps, deux mecs trempés dans une Renault Trafic au milieu de la nuit qui demandent « Excuse me, where is the exit ?» Ouais, pas besoin d'être Columbo pour avoir l'idée de prendre des notes. La camionnette, ils l'avaient louée dans une agence à l'aéroport où les autorités néo-zélandaises les attendaient. Pépère. Quand ils sont venus rendre le véhicule, Oups 3. Oups Ocalypse Now. Face aux flics, ils tentent de se faire passer pour des touristes suisses et c'est peut-être là que pour moi ça va trop loin. De toute façon, ils n'étaient pas crédibles puisque tout le monde les a vus dépasser quelqu'un dans la queue. Maintenu à l'hôtel le temps de l'enquête, ils rappellent depuis leur chambre un numéro qui mène au ministère de la Défense français. Oups 4, Oups in Paris. Je vous raconte pas le prix d'un appel international à l'époque, en plus, hein, tout ça aux frais du contribuable. La France nie et lance des fausses pistes dans tous les sens, mais elle finit entre autres par devoir présenter des excuses publiques et ainsi se taper la honte face à la Nouvelle-Zélande. Activité historiquement réservée à son 15 de rugby. Oups 5, Oups Endgame, The Final Oups, Rchuma International, à la suite de laquelle on aura le culot de faire des petits coups de pute diplomatiques aux Néo-Zélandais. Nous cherchez pas, le coq est fier, le coq il a l'arme nucléaire. Armes et essais autour desquels le but de cette opération au final c'était de faire le moins de bruit possible. Mais faut croire qu'en bien ou en mal, on finit toujours par faire parler de nous.
Pas mal, non? C'est français.
Merci Charles Nouveau. On rappelle que vous êtes franco-suisse et la partie suisse, parfois, prend le dessus. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Merci beaucoup Hervé Gattegno de nous avoir raconté l'affaire du Rainbow Warrior. Je rappelle votre livre, hein, si on veut en savoir plus, tout est dedans. Deux bombes sous le Rainbow Warrior, les derniers secrets de l'affaire qui aurait pu couler Mitterrand, c'est chez Flammarion. Est-ce qu'on a des leçons à en tirer 40 ans plus tard?
On a incontestablement des leçons que probablement on a tirées sur la professionnalisation de l'action clandestine dans les services secrets, non seulement en France, mais dans beaucoup de démocraties. Et on a probablement aussi tiré des leçons dans le contrôle exercé par notamment le Parlement, mais aussi par des experts sur le fonctionnement des services secrets.
Merci encore Hervé Gattegno, merci à tous les amis Manon, Camille, Quentin, Charles, ainsi qu'à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission en régie. Alexia Lacour, Florence Gimalac, Gérald Darnaud, Pierre Courade, Romain Bonifaci et Lola Auvert qui connaît bien 85, c'est l'année de naissance de son chéri. Mention spéciale à Isabelle Fort-Rendu et Émilie Lacot de l'INA. À la réalisation, on salue Ghislain Fontana, à la technique Élise Christophe. Lundi, on se retrouve dès 16h. On zoomera sur le G7 qui démarre dimanche. Je ne vous en dis pas plus car pour l'instant, les seules vannes qui me viennent sont des vannes sur les taxis G7, ce qui n'est pas du niveau de notre émission. Bon week-end à tous, à l'écoute d'Inter.
Zoom Zoom Zen.